Bonne semaine, messieurs les commissaires.
Bonne semaine, monsieur.
Monsieur le président de la commission.
Monsieur le président de la commission.
Président honoraire.
Président, oui. Juste un mot avant, j'aimerais ça t'entendre, Pierre, sur l'histoire de Michel Courtemanche, que l'agent collecte 50% et que lui, il dit, bon, ben, j'ai été volé, François Roson se défend.
Ben moi, j'étais extrêmement surpris d'avoir de savoir que ça se faisait puis que c'était une pratique assez courante. Je peux comprendre qu'on fasse 50-50 dans les cas où l'agent est aussi producteur et donc il y a un risque financier. Si on prend le risque de monter un spectacle, Dieu sait, avec les coûts que ça représente, je peux comprendre cette entente-là. Mais qu'on prenne 50% sur les services d'un artiste après, dans hors de ce contexte-là, quand il fait une publicité, quand il est réalisateur, a-t-il dit, quand lui et là, comme interprète, c'est, à mon sens, totalement abusif. Je connais aucune actrice, aucun acteur qui travaille dans ces tarifs-là. Il n'y a pas une agente ou un agent qui aurait l'audace de réclamer 50% des cachets d'un artiste. Donc, dans le cas d'une production, peut-être, mais dans le cas du reste, effectivement, ça m'apparaît totalement abusif.
Voulez-vous ajouter quelque chose?
Ben, écoute, pour la genèse de l'histoire de cette relation-là entre François Roson et Courtemanche, bon, c'est une chose. Mais après ça, quand Michel Courtemanche réalisait Caméra Café, puis ça, c'est Caméra Café, c'est pas il y a 25 ans, c'est il y a quelques années, on est encore à 50% du tarif. Écoute, ce que je retiens, c'est que M. Roson a pas nié ça dans son communiqué de presse.
Oui, il a pas nié des pourcentages, c'est sûr. Le Parti québécois, alors... La question qui se pose, est-ce que c'est possible de reconstruire à partir des cendres?
Mettons les choses au point. Moi, j'ai été député du Parti québécois, mais je suis plus membre du Parti québécois depuis que j'ai cessé ma vie politique. Mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est un parti auquel j'ai cru et auquel je crois encore. Puis je pense qu'il y a effectivement un avenir pour le Parti québécois, mais il est très, très ciblé. D'abord, le fait par Jean-François de reporter la question nationale ou la question de la souveraineté en 2022, ça va avoir eu un seul effet positif, celui de permettre que le Parti libéral soit chassé, en quelque sorte. En perdant des électeurs, le Parti québécois a alimenté à la fois Québec solidaire et la CAQ de ses électrices et de ses électeurs. Il a donc payé le coût de cette décision-là. Est-ce que c'était complètement une mauvaise décision? L'avenir nous le dira, parce que la question de la souveraineté va revenir probablement, selon le Parti québécois, en 2022. Le problème du Parti québécois, il est d'un autre ordre, à mon sens. J'ai vu ce parti-là quitter le milieu urbain au fil des ans et devenir de plus en plus un parti des régions. Et là, c'est confirmé dans les votes, là, actuellement, l'essentiel des députés du Parti québécois appartiennent aux régions. Donc, ils doivent absolument reconquérir les villes et dans ce cas-là, ça veut dire reconquérir aussi en même temps un électorat jeune qui habite essentiellement les villes. Je pense à Québec, mais je pense beaucoup à Montréal. Ils ont été évacués. Et ça va les forcer à se... redéfinir à partir de leur vraie définition. Et à mon sens, cette définition-là, elle est toujours l'indépendance, la langue, l'identité. C'est ce qui a créé le Parti québécois. Et à mon sens, c'est ce qui demeure du Parti québécois.
La question de fond, c'est est-ce qu'un parti décimé dans notre système, ça peut se reconstruire? Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Jean Charest est devenu chef du Parti conservateur, progressiste conservateur en 93, et il était un des deux députés. Il a travaillé fort, il a ramé, et là, on peut dire, oui, le Parti conservateur a pris le pouvoir après. Mais non, le Parti conservateur de Brian Mulroney, le Parti progressiste conservateur, a fini par être avalé par la gang de l'Ouest, composée de l'Alliance et du Reform Party. Ça, c'est un exemple. Après ça, au Québec, tu as l'Union nationale. Puis l'Union nationale, quand la chute a commencé, il y a eu une petite éclaircie à un moment donné, mais le parti est mort de sa longue agonie après ça, en 89. Zéro élu en 81, après avoir gouverné dans les années 50, 60, etc. Moi, j'en vois pas d'exemple. Ce que je vois pour le PQ, c'est aussi une longue glissade. Écoutez, depuis 98, il y a eu 7 élections de 98 à 2018. Et le résultat de 98 au vote populaire, c'est 42 % et 2018, 17 % C'est une chute de 25 points de pourcentage. Après ça, je veux dire, on peut dire que c'est un bon groupe parlementaire, le PQ. Ça l'a été. Il y a d'excellentes têtes dans le Parti québécois, de bons politiciens. Mais quand la glissade est commencée dans notre système, dans cette ampleur-là, moi, je pense qu'il n'y en a pas d'exemple.
Tu dis que le PQ ne peut pas se relever.
Non, je dis exactement. Je dis que le PQ ne peut pas se relever.
Non seulement je dis ça, mais je dis qu'attends, là, il y a 10 députés qui ont été élus. Ils représentent 17 % des électrices et des électeurs. Si on parle juste d'une minorité. Et ils ont un grand nombre de bénévoles. Il y a beaucoup de membres au Parti québécois. Attends, c'est important ça. Dans le cadre d'un scrutin proportionnel. L'espoir du PQ pour sa survie à long terme, elle repose sur un scrutin proportionnel. Mais la CAQ aurait intérêt aussi à mettre en place un scrutin proportionnel parce que sinon, on va se retrouver en 2022 avec le même scénario que d'habitude. Une élection dont la souveraineté est un des enjeux, un parti libéral qui va s'être refait des forces et un vote divisé entre les francophones, entre la CAQ. Donc, le scrutin proportionnel est un enjeu majeur, puis il est un enjeu majeur pour QS. Il y a, dans ce contexte-là, une solide gauche avec des intérêts, avec un programme très bien défini, ce serait un apport à la vie politique démocratique du Québec.
Oui, puis il y a Québec solidaire qui divise ce marché-là déjà, qui est une solide gauche avec un programme bien défini. Moi, je vais t'avouer, Pierre, je suis plus capable de l'entendre, celle-là. Et je pense que ça fait partie du post-mortem que les militants du Parti québécois doivent faire. Quand tu leur dis les chiffres que je viens de te donner là, écoute, 94-44%, 98-42%, 2003-33%, 2007-28%. Oups, on remonte un peu à 35% en 2008, mais après ça descend jusqu'à 17%. Ils te répondent, oui, mais on a 80 000 militants. OK, mais ça se traduit pas en vote. Oui, vous avez les militants. C'est vrai, le Parti québécois a les militants les plus vifs, les plus engagés, les plus passionnés, mais ça ne se traduit pas en vote. Et là, si l'espoir pour le PQ, c'est « Hey, on va peut-être avoir une réforme. » Et si on a une réforme du scrutin, du système électoral, ce qu'on ne sait pas, c'est comment les gens vont se mettre à voter aussi. Hein? Parce qu'il y a des gens qui votent dans le système actuel, qui vont voter différemment. Et ça ne veut pas dire que parce qu'ils vont voter différemment, ils vont plus voter pour le PQ, by the way.
Non.
Donc, moi, ce que je vois pour le PQ, désolé, mais c'est une lente agonie, malgré le talent parlementaire politique de ces gens-là, pour une raison assez simple. Les Québécois n'ont plus le goût de la souveraineté. Moi, j'ai grandi à l'époque où le pays était toujours en filigrane de la vie politique et de la vie sociale, surtout. Et c'est plus le cas aujourd'hui. À partir de là, quand ton article 1, c'est de faire la souveraineté, je pense que c'est cruel à dire. Peut-être que l'avenir du PQ, c'est d'être comme Québec solidaire, une force marginale, mais qui peut pousser des idées intéressantes, qui va être une position de repli pour les vrais souverainistes convaincus et qui, des fois, va peut-être aider à faire ou à défaire des gouvernements.
Ben, c'est vrai que c'est une lourde tâche. Comment passer d'un parti souverainiste dont les priorités sont la langue et l'identité, puis convaincre une jeunesse qui est mondialisée, mondialiste, qui est multiculturaliste et multilingue, c'est extraordinairement un défi extraordinaire. Au niveau politique, tu peux t'appuyer sur une certaine société civile. Au niveau linguistique, c'est sûr qu'il faut renouveler complètement le discours sur le français langue commune, langue d'usage, et c'est complexe et difficile. Puis au niveau de l'identité, ça, je ne sais pas trop comment tu peux réussir à faire ce transfert-là. C'est sûr que la tâche est immense, mais ce que je veux dire,
c'est... parce que le terrain est tellement occupé, là.
C'est ça.
Tu sais, du côté de la gauche, là, t'as Québec solidaire, puis qui met en valeur l'environnement, puis c'est un thème qui va chercher pas mal de monde. De l'autre côté, sur l'identité, t'as François Legault qui dit « m'a réglé les signes religieux d'ici un an ». Pour les multiculturels, t'as le Parti libéral qui est là, tu dis « OK, moi, j'arrive avec mon véhicule du PQ, là, je me stationne où? »
Ouais, ton espace devient... Difficile. Qui est aussi en voie de disparition que la souveraineté, ça devient large comme une cabine téléphonique.
Bon, enfin, c'est un appel qui est lancé à la bonne volonté. Non, t'as raison dans le sens que c'est pas une tâche facile, mais c'est pas non plus complètement désespéré. Peut-être que... Puis aussi, il faut peut-être qu'un jour, il faut se dire, bon, un parti, ça a une durée de vie. et peut-être que la durée de vie de ce parti-là sera terminée, mais c'est pas pour le moment, en tout cas, pour les quatre prochaines années, parce que quatre ans de pouvoir, ça use. Voyons voir dans quel état sera la CAQ au bout à la prochaine élection. Et quels sont les gens qui seront désenchantés de ce qu'ils avaient cru être un grand changement? Peut-être qu'il y en aura moins qu'on pense, et peut-être qu'il y en aura plus vers un retour. Si le parti offre, disons, un véhicule convenable. Tu as parlé d'environnement et moi, je pense que ça, c'est inévitable. Ça doit faire partie d'un Parti québécois renouvelé. Il faut que l'environnement y soit parce que ça m'apparaît de plus en plus la grande priorité politique.
On s'arrête là-dessus. Retour, pardon. Jonathan Bété qui est acquitté quand même par un juge, mais qui est condamné depuis longtemps par l'opinion publique. Marc Lepont-Champlain.